Alors, bah, c'était... Si, c'était un garçon.
Il y avait sa mère, sa mamie et ses parents. Ils étaient très pauvres.
Qui gagnait un ticket d'or, je crois, pour entrer dans une chocolaterie. Et c'était avec plein d'autres enfants qui avaient gagné un ticket d'or.
Et quand il l'a trouvé, il était vraiment heureux parce qu'il se dit, bah, enfin, j'ai l'opportunité d'aller voir ce qui se passe vraiment dans cette usine. Parce qu'en fait, on va dire qu'il était... Il est en admiration sur le gars là qui possède l'usine.
Comment il s'appelle? Je me rappelle de son chapeau.
Et il y a un passage qui m'a traumatisé, c'est quand le garçon il tombe dans le chocolat et il se coince dans le tube, genre c'est ma folie.
Je crois que si à la fin il gagne de l'argent, je sais plus, c'était parce qu'il était le petit, il était pauvre.
Je me rappelle de la fille Violette là qui mange un chewing-gum et qui devient grosse. Voilà, c'est un peu vraiment seul souvenir.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il est toujours gênant de ne pas comprendre une blague. Bon, ça arrive à tout le monde, mais on se sent un peu tarte. Pour ma part, il y a une plaisanterie qui me laisse un goût amer, un souvenir d'enfance désagréable, c'est pas de bras, pas de chocolat. Je me disais qu'il y avait forcément un sens caché, une référence, un jeu de mots, quelque chose. Et en fait, non. Ce qui est drôle, c'est juste la cruauté de la réponse à ce garçon qui demande du chocolat. Serre-toi, il est dans le placard, dit la maman. Mais j'ai pas de bras, tu sais bien, se lamente le gamin. Pas de bras, pas de chocolat. C'est que l'humour noir n'est pas évident pour les enfants. Alors pour me venger de cette blague qui m'énervait, mais surtout parce qu'à l'approche des fêtes, on a envie d'en manger plein, je vous propose du chocolat et de l'humour subversif. Charlie et la chocolaterie est au programme de Barbatruc cette semaine. Un roman de Roald Dahl adapté au cinéma, notamment par Tim Burton. Cette histoire est à la fois très drôle et d'une cruauté immense. Pousser les portes de la chocolaterie de Willy Wonka, c'est élargir sa capacité d'émerveillement et céder avec gourmandise à l'humour corrosif. Un humour qui creuse volontiers le fossé entre les adultes et les enfants. Allez, vous prendrez bien une tablette de super délices fondant Wonka à la guimauve. Soyez les bienvenus, on se raconte des histoires.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Émission préparée par Mao De Butler et réalisée par Christophe Humbert. Pierre-Yves Derolin est à la technique. J'ai le plaisir d'accueillir deux invités qui vont nous aider à visiter la chocolaterie de Willy Wonka. Bonjour Florence Casuli.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes enseignante à l'université d'Angers, spécialiste de littérature jeunesse en général et de Roald Dahl en particulier, à qui vous avez consacré deux mémoires. Votre thèse, qui est en cours de rédaction, porte aussi sur l'écrivain britannique. Jamais ras-le-bol de Roald Dahl?
Non, jamais. Il est indémodable.
Indémodable.
On atteste toutes les adaptations qui vont arriver, d'ailleurs.
D'ailleurs, bientôt, une nouvelle adaptation de
Zemeckis.
Robert Zemeckis, le réalisateur de Retour vers le futur. Il va adapter bientôt Sacrée sorcière. Vous trépignez d'impatience.
Ouais, surtout qu'il est déjà sorti aux États-Unis et que, bah, du coup, nous, avec le confinement, on est obligés d'attendre un tout petit peu plus longtemps. Mais oui, effectivement, et aussi Taika Waititi qui va adapter sur Netflix, donc ouais, il est indémodable.
En attendant, on relit la BD de Pénélope Gabajue, Sacrée sorcière. Mon deuxième invité, c'était indispensable, est un chocolatier. Bonjour Pierre Marcolini.
Bonjour.
À distance, depuis chez vous en Belgique, vous êtes le fondateur de la maison Pierre Marcolini, 40 boutiques dans le monde. Vous êtes le meilleur pâtissier du monde 2020, titre que vous avez reçu très récemment. Alors, vous êtes plutôt pâtissier ou plutôt chocolatier?
Je dirais plutôt cuisinier du sucré. Je trouve qu'effectivement, ce qui est toujours un petit peu désobligeant, c'est que dans le monde du sucré, on est obligé de mettre des catégories. Vous êtes pâtissier, glacier, chocolatier, mais en fin de compte, le pâtissier qui fait de mousse au chocolat appartient-elle un peu plus au chocolatier ou au pâtissier? La glace au chocolat appartient-elle un peu plus au glacier ou au chocolatier? Et je trouve qu'effectivement, dans le monde du salé, on a un mot générique, le fait de dire qu'on est cuisinier. On ne se pose pas la question de savoir si notre ami, par exemple, Pierre Gagnère, est capable de pouvoir aller dans l'univers du dessert, comme dans l'univers végétal, par exemple, pour les légumes, ou des viandes ou des poissons. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai cette fibre plutôt du sucré, et on verra un peu plus tard, peut-être un peu plus sur la gourmandise aussi.
Charlie et la chocolaterie, fait-il partie de votre univers de cuisinier, alors, Pierre Marcolini?
Alors, je pense qu'aujourd'hui, ce fameux ticket d'or, Charlie et la chocolaterie et le monde de Willy Wonka, effectivement, sont des éléments qui me sont communs et qui me sont au quotidien. Si vous regardez une chocolaterie de près, on n'est pas fort éloigné de ce qu'on peut voir ou ce qu'on peut lire, d'ailleurs. C'est à la fois ces machines incroyables, on voit ces tubes et ce chocolat qui se déverse dans tous les sens. Et les machines sont juste incroyables, que ce soit de torréfier les fèves de cacao, qu'elles soient de griller les fèves de cacao, que ce soit de mélanger cette pâte de cacao avec le sucre, de gratter ces gousses de vanille, et puis effectivement de commencer à passer cet effet de pâte dans un broyeur trois cylindres. On ressort de là, et vous avez un espèce de rideau de chocolat qui commence à se tisser. Et c'est pour ça que je vous disais, on n'est pas très très loin, il suffirait de peut-être colorier ou de peindre les machines pour ne pas être loin de l'univers de Tim Burton.
Bon, on a faim déjà, merci beaucoup Pierre Marcolini. Charlie et la chocolaterie.
Je suis quelqu'un d'excessivement gentil.
Charlie et la chocolaterie, roman de Roald Dahl publié dans les années 1960, adapté au cinéma d'abord en 1971 par Mel Stuart avec Gene Wilder dans le rôle de Willy Wonka et puis par Tim Burton, version inoubliable en 2005. Cette fois, c'est Johnny Depp qui incarne le chocolatier.
Chers visiteurs, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir dans mon humble fabrique. Et qui suis-je ? Eh bien...
Willy Wonka, Willy Wonka, les deux grands chocolatiers. Willy Wonka, Willy Wonka, tout le monde veut l'acclamer. Sa modestie, son élégance, il ne peut s'en départir. Sa grande générosité, pas moyen de la contenir. La contenir, 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 contenir.
Magnifique. J'avais peur que ce soit un peu too much avec le couplet du milieu, mais ce final... Waouh !
Vous êtes qui, vous ?
C'est Willy Wonka.
C'est lui.
Laissons entrer le soleil. La Terre vous dit hello.
Et voilà qui plante le décor, un manège tout mignon, bariolé, enchanteur, qui soudain prend feu, les yeux des poupées se décrochent, c'est absolument atroce. On est bien là, Florence Casvili, dans l'atmosphère de ce roman de Roald Dahl, entre la féerie et la cruauté.
Exactement, et du coup, Roald Dahl s'inspire extrêmement des contes de fées, et plus spécifiquement des contes d'avertissement. Donc on peut par exemple citer un classique de littérature de jeunesse par Heinrich Hoffmann qui s'appelle Der Struwwelpeter, en français c'est Pierre l'Ébouriffé. Et c'est effectivement en fait des petits contes, des petites histoires où à chaque fois il y a une fin cruelle parce que les enfants se sont mal comportés.
Le Petit Chaperon Rouge est aussi un conte d'avertissement, comme vous dites. On navigue entre la noirceur et la magie. Est-ce que c'est un incontournable des romans de Roald Dahl ?
Oui, oui, c'est sa signature, je dirais même. Il percevait pas un livre pour la jeunesse sans humour. C'était le maître mot pour lui, c'était l'humour. Et du coup, c'est pour ça qu'il s'interdisait pas d'introduire de la cruauté dans ses livres.
Est-ce que vous parleriez d'humour transgressif ?
Oui, même d'humour noir. C'est d'ailleurs l'une des parties de ma thèse qui est basée sur l'humour noir. Et Roald Dahl en raffolait. Et ça, c'est clairement dans tous ses romans, même pour les plus petits, on le perçoit beaucoup, oui.
Il faut commencer par dire sans doute que Roald Dahl était fasciné par le chocolat. D'où ça vient ?
Ça vient de son enfance. Il dit que c'est arrivé vers ses 14-15 ans quand il était à Repton. Donc c'est une école, une espèce d'internat pour les jeunes garçons. Et il habitait, en fait, Repton était à côté de l'usine Cadbury. Mm-hmm. Donc tous les mois, en fait, il recevait des boîtes de chocolat et on leur demandait aux jeunes garçons de noter à chaque fois les nouvelles barres qui sortaient, donc les barres de chocolat. Et c'était une note de 1 à 12, 12 étant la plus élevée. Et Roald Dahl en raffolait.
Immense frustration de sentir cette odeur de chocolat toute la journée.
Bah ça va parce que du coup il pouvait avoir accès au chocolat facilement, mais c'est une passion qui arrivait quand même dans les années adolescentes. Parce que il dit aussi que pour lui les meilleures années de chocolat c'était de 1930 à 1937 et donc il était déjà assez âgé et c'est à ce moment-là qu'il a découvert le chocolat.
Allez, on se vautre dans le chocolat jusqu'à 18h sur France Inter.
Dimanche soir. Dorothée Barba Patrick.
Have you lost your mind yet? To get
Samouraï, c'était Fantastique Negrito sur France Inter. Programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert. Nous sommes Charlie ce dimanche. Nous sommes Charlie Bucket et nous visitons la chocolaterie de Willy Wonka. Charlie et la chocolaterie est au menu de Barbatruc avec le grand chocolatier belge Pierre Marcolini et avec la spécialiste de Roald Dahl, Florence Casulli. On regrette que Pierre Marcolini soit au téléphone et pas dans ce studio parce que peut-être, sait-on jamais, aurait-il apporté quelques victuailles, n'est-ce pas Pierre Marcolini?
Écoutez, juste à côté de moi, non. J'ai ce qu'on appelle des pralinés aussi.
Vous êtes d'une cruauté.
Donc le praliné, c'est quand même un des grands classiques de la chocolaterie française. On est dans une cuisson de sucre qui va se caraméliser, dans laquelle on va rajouter soit des fruits secs qui vont être de la pistache, ça peut être de la noisette, ça peut être de l'amande, ça peut être de la noix, la noix de cajou, et on va broyer le tout. On peut le faire un petit peu croquant, de façon effectivement à avoir un peu de texture. Vous savez que aujourd'hui on travaille en tant que chocolatier et pâtissier, on travaille beaucoup sur les textures. Avant, on avait quelque chose qui était plutôt lisse. Et ici, non, on va chercher du grain, on va chercher quand même, à un moment donné, de la poésie en bouche. On veut que quand on met un praliné, on ait à la fois le côté croustillant qui titille un peu les papilles gustatives, et puis cette note de noisette. Et là, bah, vous vous laissez emporter.
Pierre Marcolini, bravo pour le sadisme. Merci beaucoup. Je me replonge.
Vous n'êtes pas là.
Bah non, je suis pas là. Je peux pas les goûter, vos pralines. Alors je me replonge dans mon roman de Roald Dahl, Charlie à la chocolaterie. Le début de ce roman est très sombre, Florence Casulli. Le jeune Charlie Bucket et sa famille sont pauvres. Les quatre grands-parents dorment dans le même lit, dans une toute petite maison. Tout le monde meurt de faim. Le salaire du père de Charlie, qui est ouvrier dans une usine de dentifrice, ne suffit pas à nourrir la famille. Voilà qui est propre au roman de Roald Dahl. Charles Dickens n'est jamais loin.
Ah oui. Oui, effectivement, il est très dickensien, si on pourrait dire. Charles Dickens est l'un des premiers écrivains qu'il a lu lui-même quand il était encore une fois à Repton. Il s'est beaucoup inspiré, notamment d'Oliver Twist, par exemple, avec tout ce qui est pauvreté, etc. Mais oui, effectivement, Dickens est jamais loin.
Willy Wonka, le patron de la grande chocolaterie à côté de chez Charlie, a glissé des tickets d'or dans 5 tablettes de chocolat, 5 seulement. Et Charlie, qui ne mange qu'une seule tablette par an le jour de son anniversaire, ne tombe pas sur la bonne. Mais il trouve une pièce par terre. Et avec cette pièce, il va s'acheter 2 tablettes. Et dans la deuxième, il trouve le fameux ticket d'or. Magnifique trouvaille narrative, hein, ce ticket d'or, Florence Cazuli.
Oui, et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que Roald Dahl avait d'abord pensé à faire rentrer 10 enfants.
Ah.
Donc ça doublait le nombre de personnages. Puis après, bah, il s'est dit, il y a quand même beaucoup trop d'enfants, j'ai pas besoin d'autant d'enfants pour faire passer mon message. Mais effectivement, le fait qu'il trouve, c'est un peu le tournant de l'histoire, le fait que le pauvre petit et honnête Charlie trouve une pièce par terre, c'est effectivement, oui, une trame narrative assez exceptionnelle, mais Roald Dahl... on est fiers, je pense aussi.
Pierre Marcolini.
Il faut permettre, il y a quelques chocolatiers qui se sont inspirés de ça, et qui ont, que ce soit dans le cadre, effectivement, des fêtes de fin d'année, ou pour récompenser quelques clients, une espèce de tombola, où on se retrouve avec un ticket d'or. Alors, on l'a fait dans un autre domaine, je fais un parallèle, c'est sur les galettes des rois. Je pense que vous avez, en France, c'est quelque chose d'excessivement populaire, et la galette des rois, la pièce d'or, est quelque chose qui est assez commun, où à un moment donné, on se dit, tiens, voilà, il y a autant de galettes qui ont été réalisées, il y a une pièce d'or qui s'y balade, et c'est vraiment cette espèce de chasse au trésor qui commence.
Et le ticket d'or donne encore plus de valeur au chocolat qui est déjà un trésor, mais vous avez raison de dire que c'est une chasse au trésor qui démarre avec ce ticket. Alors Charlie gagne le droit de visiter la chocolaterie. Nous voici dans la salle au chocolat. Écoutons ce passage du roman lu par une voix familière ici à France Inter. C'est Claude Villers.
Les 5 enfants et les 9 adultes entrèrent en se bousculant pour tomber en arrêt devant tant de merveilles. Oh, quel fascinant spectacle! À leurs pieds s'étalait une jolie vallée. De chaque côté, il y avait de verts pâturages et tout au fond coulait une grande rivière brune. Mais on voyait aussi une formidable cascade, une falaise abrupte par où les masses d'eau, pleines de remous, se précipitait dans la rivière, formant un rideau compact, finissant en un tourbillon écumant et bouillonnant, plein de mousse et d'embrun. Au pied de la cascade, quel étonnant spectacle, d'énormes tuyaux de verre pendillaient par douzaines, un bout trempant dans la rivière, l'autre accroché quelque part au plafond. Très haut, ils étaient vraiment impressionnants, ces tuyaux, extrêmement nombreux. Ils aspiraient l'eau trouble et brunâtre pour l'emporter, Dieu sait où. Et comme ils étaient de verre, on pouvait voir le liquide monter et mousser à l'intérieur et le bruit bizarre et perpétuel que faisaient les tuyaux en l'aspirant se mêlait au tonnerre de la cascade. Des arbres et des arbustes pleins de grâce poussaient le long de la rivière, des saules pleureurs, des aulnes, du rhododendron touffu à fleurs roses, rouges et mauves. Le gazon était étoilé de milliers de boutons d'or.
Voyez !
De sa canne à pommeau d'or, il désigna la grande rivière brune.
Tout cela, c'est du chocolat. Chaque goutte de cette rivière est du chocolat fondu et du meilleur. Du chocolat de première qualité, du chocolat, rien que du chocolat, de quoi remplir toutes les baignoires du pays. Et aussi toutes les piscines, n'est-ce pas, Mamie ? Et regardez mes tuyaux. Ils pompent le chocolat et le conduisent dans toutes les autres salles de l'usine. Des milliers et des milliers de litres.
Les enfants et leurs parents étaient bien trop ébahis pour pouvoir parler. Ils étaient confondus, stupéfaits, ahuris, éblouis. Ils étaient subjugués par ce spectacle fantastique. Ils étaient là, les yeux tout ronds, sans dire un mot.
La cascade est extrêmement importante. C'est elle qui mélange le chocolat. Elle le bat, elle le fouette, elle le dose, elle le rend léger et mousseux. Aucune autre chocolaterie du monde ne mélange son chocolat à la cascade. Pourtant, c'est la seule façon de le faire convenablement. La seule. Et mes arbres, qu'en pensez-vous de mes arbres? Et mes jolis arbustes, n'en sont-ils pas beaux? Je déteste la laideur, je vous l'ai bien dit. Et naturellement, tout cela se mange. Tout est fait d'une matière différente, mais toujours délicieuse. Et mes pelouses, que pensez-vous de mon herbe et de mes boutons d'or? L'herbe où vous posez vos pieds, mes chers amis, est faite d'une nouvelle sorte de sucre à la menthe, une de mes dernières inventions. J'appelle cela du smucre. Goûtez un brin. Allez-y, c'est délicieux.
Barbatruc de Dorothée Barba sur France Inter.
Vive le smucre, Charlie et la chocolaterie, lu par Claude Villers. C'est un livre audio disponible chez Gallimard Jeunesse. Alors on a la chance d'avoir un expert avec nous, Pierre Marcolini. Est-ce que la cascade, c'est la meilleure manière de mélanger le chocolat?
En tout tout cas, il y a tellement de similitudes dans la production. On n'est pas loin, je pense qu'on est totalement dans la réalité. Alors évidemment, on n'a pas les arbres qui poussent effectivement dans la chocolaterie. Quoique quand vous rentrez dans une plantation de cacao et que vous regardez un cacaoyer, que ce soit du Forastero, du Trinitario, du Criollo, qui sont toutes les variétés qu'on peut avoir dans le monde du chocolat, on se rend compte que la cabosse, qui est le fruit, et à l'intérieur de cette cabosse, on va y trouver les fèves de cacao, sont des couleurs qui sont absolument extraordinaires. Et pour revenir sur la cascade en question, et en tout cas ce qui s'y passe dans une chocolaterie, si je vous parle d'une mouleuse à chocolat, c'est quoi? Ce sont, vous imaginez, des formes qui vont passer en dessous d'un rideau de chocolat dans lequel, effectivement, le chocolat va se glisser dans les cavités. Puis on va retourner ce moule et là, effectivement, on va avoir ce chocolat qui va redescendre et puis on va gratter et on va obtenir une coque de chocolat la plus fine possible pour pouvoir y faire un petit insert de caramel avec un peu de fleur de sel et on termine ça par une dentelle de Quimper. Et donc, effectivement, une mouleuse, c'est ça. Une enrobeuse, je pense que de temps en temps, on a déjà vu ça aussi, c'est les bonbons de chocolat que l'on place sur une grille et là, il y a un rideau et puis il sort de l'autre côté et ça me rappelle ça quand je vois de nouveau des enfants qui sont d'un côté et de l'autre et qui sont émerveillés de voir ces chocolats qui avancent un peu en soldat et puis qui passent sous ce rideau du chocolat au lait ou du chocolat noir ou du chocolat blanc et puis derrière vont être décorés. Eh bien, on a juste envie de les toucher, mais on peut pas parce que le chocolat n'est pas encore pris, il doit rentrer dans ce qu'on appelle un tunnel de refroidissement, et à l'arrière de ce tunnel de refroidissement, eh bien, 10 minutes plus tard, on va pouvoir commencer à pouvoir le déguster. Alors, faut-il battre le chocolat? Je pense que oui, pourquoi pas, quand on fait un chocolat chaud, on connaît cela. Un chocolat chaud, il y a ce fameux objet qui s'appelle un moussoir dans lequel on va mousser le chocolat et qui va me donner de l'onctuosité et effectivement de la légèreté. Pourquoi? Parce que dans le chocolat, il y a une matière qui est juste magnifique, qui s'appelle du beurre de cacao. Et à partir du moment où ces molécules de gras, de beurre de cacao, mais qui est de la figolique, c'est-à-dire un bon gras, eh bien directement, vous allez avoir une émulsion qui va se créer. Et c'est ça qui va donner l'onctuosité à votre chocolat. Et je pense que vous n'avez qu'à connaissez déjà le secret.
Vous venez de nous révéler que les cascades de chocolat, ça existe en vrai, Pierre Marcolini. Merci beaucoup pour ce cadeau de Noël, franchement. Alors, succomber au plaisir...
Je ne pouvais pas le garder pour moi. Il y a un moment donné, il faut arrêter des égoïstes. Il faut pouvoir dire les choses.
Succomber au plaisir du sucre, c'est ce qui fait le sel de ce roman, si vous me permettez l'expression. Juliette Proutot, notre reporter, a promené son micro dans les rues de Nantes. Elle a demandé à des enfants et à des ados quelle était leur sucrerie préférée.
Bonbons, moi je suis plus les langues là qui piquent, je sais pas comment ça s'appelle, les Scooby-Doo aussi j'aime bien.
Je mange quoi? Je mange des Dragibus.
Chocolat au lait.
Au lait, oui.
Au lait,
moi. Chocolat noir.
Oh, Kylian menteur.
Mais non, mais c'est vrai. J'aime bien le chocolat noir.
Toi, tu m'as dit que tu préférais le chocolat au lait.
Mais j'aime bien le chocolat noir aussi un peu. Ah bah les fraises tagada, j'adore.
Les Schtroumpfs.
Aussi les crocodiles, c'est bon.
Oui, mais il faut pas le dire aux parents.
Non, en plus, le chocolat blanc, ce n'est pas du vrai chocolat.
Ah, chocolat blanc, ouais, c'est pas...
Non, ce n'est pas du vrai chocolat, c'est du chocolat à partir de beurre de cacao.
Ça reste du chocolat. Bah, c'est la base qui dit...
J'aime pas le chocolat noir, je trouve. Non, mais il y a des chocolats noirs qui sont grave forts, j'aime pas ça.
J'en mange vraiment plus, hein.
Ah non.
C'est bizarre, avant, j'en mangeais tout le temps.
Aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, voilà.
Là, aujourd'hui, oui.
Aujourd'hui, non, mais aujourd'hui, t'es plus dans les nouveautés, alors que les bonbons, enfin...
Moi, c'est Dragibus.
Moi, c'est les bonbons en spaghetti, là. Je sais pas comment ils s'appellent.
Ah oui, les Scooby-Doo.
Ouais, un peu, ouais.
Ah non, moi, j'en aime aucun, j'aime pas. J'aime aucun bonbon, vraiment. Tout ce qui était carambar au caramel, c'est tout ce que j'aime.
Les têtes brûlées, parce que ça pique. Les bonbons qui piquent. Tagada.
J'aime pas.
Ah non, j'aime pas.
Chocolat noir.
Au chocolat au lait. Et du chocolat.
Et du chocolat, et du chocolat. Vous voilà rassuré, Pierre Marcolini. Les enfants d'aujourd'hui aiment toujours ça, autant. Gros débat, on vient de l'entendre, sur le chocolat blanc. Est-ce du vrai chocolat?
Oui, c'est vrai qu'effectivement, il y a un gros débat sur le chocolat blanc. Alors, je profite de l'antenne parce que Nantes, il y a un chocolatier hors pair qui s'appelle Vincent Guerlet, qui est à découvrir parce qu'on parle de Charlie et la chocolaterie, mais chez lui, chez Vincent, c'est aussi beau que chez Charlie. Et donc, pour revenir à votre débat, effectivement, le débat du chocolat blanc, du chocolat au lait, du chocolat noir, quelque chose qui n'est pas seulement voué que pour les enfants, je pense même pour les adultes. Les puristes vous diront effectivement que pour eux c'est le chocolat noir et si possible des grands crus. Alors c'est quoi un grand cru? Un cru de chocolat, on le connaît dans le monde du vin, mais dans le chocolat, eh bien ça veut dire que c'est des fèves de cacao qui sont issues de cacaoyers natifs et qui effectivement sont issues d'une seule et même plantation. Donc, si on prend Joa Tavares, un seul endroit du côté du Brésil, ça, c'est ce qu'on appellerait des grands crus, et en général, ils sont à plus de 70% de cacao. Est-ce qu'il faut, vous savez, cette espèce de surenchère qu'on connaît dans le monde du chocolat noir, où on vous dit, ah, mais moi, j'ai goûté un 70%, et puis votre voisine ou votre voisin vous dit, ah non, attendez, moi, je préfère du 80%, et l'autre vous dit 85%. Stop. Il faut arrêter, c'est totalement ridicule. Alors pourquoi c'est ridicule? Simplement parce que les fèves de cacao, c'est du végétal, et c'est le sol, c'est le cacaoyer qui va vous donner des arômes un peu plus amers ou un peu moins amers. C'est comme si je vous disais, j'ai bu une très très bonne bouteille de vin, c'est 12,5 d'alcool, ça veut absolument rien dire si vous n'avez pas le cépage. Donc pour revenir sur le chocolat noir, ce qui est important à retenir, c'est effectivement le type de cacaoyer qu'on a besoin. La deuxième chose pour le chocolat blanc, effectivement, c'est pas du chocolat, c'est de la poudre de lait avec du sucre et du beurre de cacao. Il n'y a pas de fèves. Mais par contre, qu'est-ce que ça peut être bon? Je pense que pour les enfants, les premiers prémices pour arriver à un chocolat noir intense, ils passent par du chocolat blanc, ils passent par du chocolat au lait. Le chocolat au lait, c'est de la gourmandise, c'est des notes de miel, c'est des notes de caramel, c'est des notes un peu de fleur de sel. Moi, de temps en temps, je m'arrête l'après-midi, je mange effectivement ce que j'appelle chez moi une tablette casse-noisette, chocolat au lait, et un tiers de praliné, vous mélangez le tout, vous mettez des noisettes et un peu de fleur de sel, et ça vous fait le goûter de l'après-midi.
Un détail qui n'en est pas un d'ailleurs dans le roman de Roald Dahl, Florence Casulli, le papa de Willy Wonka était dentiste, et il lui interdisait de manger du chocolat et des bonbons. Le traumatisme vient de là. Ce personnage tellement ambigu, tellement compliqué à cerner, vient de ça.
C'est un personnage, le père de Willy Wonka, un personnage inventé par Tim Burton.
Ah, ça c'est dans le film,
oui, mais c'est dans le film. Dans le livre, roman. Il n'y a absolument aucune mention de la famille de Wonka. Il est homme célibataire, businessman, qui gère son affaire, mais il n'y a absolument ni femme ni enfant, alors que dans l'un des premiers brouillons, il avait femme et enfant, d'ailleurs, Willy Wonka, mais Roald Dahl a supprimé tout ça. Mais effectivement, le dentiste dans le film est une invention purement burtonesque, si on peut dire.
Alors, certains des autres enfants qui visitent avec Charlie Bucket la chocolaterie mangent beaucoup trop de chocolat. On a pu dire, Florence Casulli, que ce roman était grossophobe. Non. Qu'en pensez-vous ?
On a dit qu'il était grossophobe. D'ailleurs, même sa femme se sentait parfois gênée quand ils allaient au restaurant, parce qu'il regardait avec insistance les gens en surpoids, etc. Et il considérait effectivement que l'excès, c'était mauvais. Et puis, il n'y a pas que dans Charlie, il y a aussi dans d'autres romans où on le perçoit, où à la nourriture, il faut qu'elle soit dégustée, mais toujours avec modération. Donc effectivement, les accusations de grossophobie peuvent être avérés, oui.
Voilà, ce personnage, comment ça s'appelle ?
Augustus Gloop.
Voilà, Augustus Gloop est un petit garçon beaucoup trop gourmand, qui d'ailleurs succombe à cause de sa gourmandise.
Il est puni à cause de sa gourmandise, et son nom d'ailleurs aussi fait référence à sa gloutonnerie,
je sais pas trop. Il s'appelle Gloop.
Voilà, et donc du coup les deux O qui évoquent un peu quelque chose de rond, de gros, ça évoque le personnage en entier, donc même son nom le réduit à sa gourmandise.
Mais alors vous considérez qu'on peut lire Roald Dahl évidemment aujourd'hui et l'apprécier pour le chef-d'œuvre qu'il est, ce livre, en sachant que son auteur était grossophobe?
Est-ce qu'il faut séparer l'auteur de son œuvre, etc. C'est quelque chose d'ambigu. Je pense que dans Charlie la chocolaterie, Augustus Gloop était quand même un personnage plutôt comique.
Voilà, on est dans l'outrance.
C'est ça, c'est grotesque.
C'est carnavalesque même.
Exactement.
La gourmandise, voilà un mot ambigu pour les enfants et les ados. Un mot synonyme de plaisir, mais aussi de danger.
Je suis très gourmande et je dis que c'est une mauvaise chose, honnêtement.
Moi, je dis que c'est une bonne chose parce qu'on peut prendre plaisir vraiment sans se dire c'est mal. Clairement, le week-end, le vendredi, après une grosse semaine, je me prends mon chocolat, voilà, chez moi.
Bah, ça stimule déjà, c'est ça.
Je suis très très gourmande, du coup, la faim, elle peut vite me gagner, voilà.
Oui. Ah non, quand tu décides d'en prendre 4, au final, t'en prends 10.
Très gourmande, mais franchement, des fois, faut arrêter parce que je mange beaucoup l'après-midi, beaucoup de choses sucrées, et du coup, le soir, bah, je mange vraiment plus rien.
C'est ça.
Le chocolat noir, c'est un peu trop acide, et pour le chocolat blanc, c'est presque pas du chocolat.
Le chocolat au lait, je trouve qu'il a un goût, il est quand même très bon pour moi.
On va dire qu'en fait, genre le sucré, c'est comme, on va dire, une drogue en fait. Vraiment, non mais vraiment.
Parce que quand t'es gourmand, tu manges aussi des sucreries, et puis beaucoup. Ça fait mal au ventre des fois.
Parce que ça fait partie de l'interdit, et l'interdit est toujours...
C'est pas interdit.
Non mais on nous empêche de bouffer des bonbons et des chocolats. Et quand tu découvres quelque chose, tu dis, ah ouais, c'est quand on nous cachait depuis tous ces temps, bah...
Tu sais, comme si c'était de la drogue.
Parce que si tu manges trop, bah tu vas être un peu pas en bonne santé.
et avoir des caries.
C'est bien d'être gourmand.
Mais oui, mais oui, faut savoir aussi stopper, quoi. En gros, ça a deux formes différentes, une addiction et une forme de plaisir, à peu près, à prendre plaisir et pas forcément manger que des cochonneries H24, parce que après, il y a la santé qui joue dessus, il faut être en pleine forme quand même. Ben...
C'est bien d'aimer les bonnes choses, si vous voulez dire ça. C'est vrai.
Florence Casuilli, les propos de ses enfants font écho au roman de Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie.
Oui, d'ailleurs, Roald Dahl était passionné lui-même de chocolat. Et si, petite anecdote, sa friandise préférée était le Kit Kat.
Ah.
Et sa petite fille donc, avait aussi, dans une interview, a reporté le fait qu'à chaque fois qu'il mangeait une barre de Mars, ça pouvait prendre des heures parce qu'il adorait croquer dedans et décortiquer la barre en elle-même. Mais effectivement, le fait que le chocolat, ça peut être interdit par les parents, etc. Roald Dahl aussi le dénonce avec le personnage, on vient d'en parler, d'Augustus Gloop. Il faut savoir s'arrêter et l'excès n'est jamais bon.
C'est ça qui est ambigu avec ce roman, Florence Casuilli, c'est qu'il y a quand même une manière de chanter les louanges des enfants raisonnables. Même si c'est transgressif, noir, cruel, au final, les enfants raisonnables, les enfants sages ont raison.
Bah Charlie incarne effectivement l'enfant sage par excellence. Mmh. Alors, dans le roman, il est plutôt passif quand même. Il se passe pas grand-chose. Il suit un peu le mouvement, on va dire, mais c'est le seul qui remet jamais en cause ce que les adultes disent. Et c'est aussi pour ça, à la fin, je pense, qu'il gagne la chocolaterie. C'est l'enfant sage par excellence. Et c'est un monde manichéen. Il y a Charlie d'un côté et tous les autres mauvais enfants de l'autre. Donc, et ça, c'est encore une fois une tradition littéraire du conte de fées.
Pierre Marcolini.
Vous savez qu'il y a un combat quand même assez fort du côté des chocolatiers, puisque c'est considéré comme un vice et nous, on veut plutôt en faire une vertu. Donc, avec Wendell, on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus. Moi, je pense que les grands gourmands sont des gens qui sont plutôt tendres et qui sont plutôt affectifs, mais c'est une question de point de vue.
Bien sûr.
Et moi, quand on a terminé un chocolat, la chose qui me fait plaisir, vous savez, quand vous vous dites, quand est-ce qu'un chocolat est réussi? Quand est-ce qu'une création est réussie? Quand est-ce qu'à un moment donné, c'est réussi? Ce côté un peu judéo-chrétien, quand vous l'avez terminé, vous dites, pourvu qu'il en reste encore un. Et ça, c'est fabuleux.
Allez, on continue notre promenade dans cette délicieuse chocolaterie dans un instant. Voici d'abord la chanteuse française la plus connue dans le monde, Aya Nakamura.
Barbatric de Dorothée Barba sur France Inter.
Aime-moi doudou, montre-le-moi doudou, t'es mimi, dis-le-moi doudou, prouve-le-moi doudou, et ça c'est quel comportement doudou, tu me mens beaucoup, ça c'est quel comportement doudou, tu me mens beaucoup. Français soit clair, en vrai. J'ai passé l'âge de jouer, j'ai dit. Toi et moi on se sait, n'en fais pas trop s'il te plaît. On perd déjà du temps à tester nos limites. Ta présence coûte cher, dis-moi quel est mon bénéfice. En moi tu pourrais voir nos projets et l'avenir. Mais nous brûler les ailes, il faudrait éviter. Aime-moi doudou, montre-le-moi doudou. Tu me mens beaucoup. Les soirs venus, faut qu'on se mette à l'aise. Ouais. Sinon, laisse tomber. Tu peux chercher, elles n'ont pas le verre. Yeah. Chérie, laisse tomber. Les soirs venus, faut qu'on se mette à l'aise. Ouais. Sinon, laisse tomber. Tu peux chercher, elles n'ont pas le verre. Yeah. Chérie, laisse tomber. Les rageux nous pistent. Longue est la liste. Pour mériter ce qu'on veut. J'ai barré tous les dalles, maintenant à nous deux. Eh, il est dans ma tête, tête, tête. J'ai le cœur à la fête, fête, fête. J'crois bien qu'on est en osmose. Faut que ça s'arrête jamais. Non, non, jamais. Aime-moi doudou. Montre-le-moi doudou. T'es mimi, dis-le-moi doudou. Prouve-le-moi doudou. Et ça, c'est quel comportement doudou. Tu me mens beaucoup. Ça, c'est quel comportement doudou. Tu me mens beaucoup. Les soirs venus, faut qu'on se mette à l'aise. Ouais. Sinon, laisse tomber. Tu peux chercher, elles n'ont pas le verre. Ouais. Chérie, laisse tomber. Les soirs venus, faut qu'on se mette à l'aise. Ouais. Sinon, laisse tomber.
Aya Nakamura est une femme puissante. Elle sera l'une des invitées de la nouvelle saison de Femmes puissantes proposée par Léa Salamé sur France Inter. Entretien exceptionnel à écouter dimanche prochain, le 27 décembre à midi. Et nous, à Barbatruc, on a décidé d'avaler tous les chocolats du calendrier de l'Avent en une seule fois. On se penche sur Charlie et la chocolaterie de l'écrivain britannique Roald Dahl avec Florence Casuli, spécialiste de littérature jeunesse, et avec le chocolatier Pierre Marcolini depuis la Belgique. La créativité, voilà un sujet important dans cette histoire, Pierre Marcolini. L'imagination de Willy Wonka en matière de chocolat est sans limite. Hein.
Totalement, effectivement, et la créativité, ça fait partie aujourd'hui du monde du chocolatier. Encore plus dans le cadre des fêtes de fin d'année, on doit se réinventer en permanence. Les clients sont de plus en plus, et surtout les jeunes aussi, je pense, sont de plus en plus soucieux de ce que vous avez fait la collection précédente. Et effectivement, la deuxième chose, c'est que quand on regarde ce qu'on a à disposition entre le début du XXe siècle et maintenant, les techniques ont changé, on a évolué, les produits aussi, cette créativité, elle est beaucoup plus grande puisqu'on a accès à des produits du quasiment du monde entier. Est-ce que je vous aurais parlé un jour de faire du chocolat à base d'un agrume japonais qui s'appelle du yuzu? Je pense qu'on jamais on aurait imaginé ça. Je pense que Wendell n'aurait pas imaginé ça. Les techniques, aujourd'hui, on découpe le chocolat avec un jet d'eau précis qui vous permet de découper un chocolat à X millimètres sans rentrer trop dans le détail. Mais voilà, toutes les formes sont possibles. On peut le modeler. Il y a certains chocolatiers d'ailleurs qui ont fait des sculptures. Donc, en termes de création, on est servi et le domaine du possible est gigantesque.
Il y a un ascenseur en verre dans la chocolaterie de Willy Wonka et les boutons de cet ascenseur donnent une idée de l'étendue de l'imagination de Willy Wonka. Il y a par exemple un bouton sur lequel il est écrit « Dragée arc-en-ciel, sucez-les et vous cracherez de toutes les couleurs. Sucette lumineuse à manger au lit la nuit, sans oublier le bonbon inusable et le caramel qui fait pousser les cheveux. » Écoutons à nouveau les enfants. Juliette Proutot a posé cette question dans les rues de Nantes. Et si toi, tu inventais un bonbon, ça donnerait quoi?
Il serait rond et je mettrais de la fraise dedans. Un bonbon mais à la fraise mais qui pique un peu.
Des bonbons qui donneraient des super pouvoirs.
Je mettrais du sucre, un peu de colorant, fraise, coca et c'est tout. Hein.
Moi je mettrais de la menthe, du coca et de l'acide.
Ah bah c'est clairement à la vanille fraise. Des bonbons vanille fraise.
Ou alors de la mangue et de l'ananas.
Ah, du chocolat à la mangue, ça existe déjà donc.
Que des bonbons à la fraise. J'aime trop la fraise et à la pomme. Hein.
À la cerise?
Non, à la fraise.
Ah non, à la cerise, c'est mieux.
Ouais.
Non, sinon, bah, ça existe déjà, tu sais, t'avais du chocolat à base d'amandes, mais en forme de bonbon. En gros, tu vois, par exemple, tu sais, les fraises agada.
Ouais.
Genre, c'est à la forme d'agada, mais c'est à l'amande. Pas d'amande, mais à la forme des bonbons, enfin, ça serait bien.
Moi, ça serait une sucette, elle ferait un mètre. Si je fabriquais mon bonbon, il va s'appeler Gogu et il aura une forme de double spirale et il aura à peu près tous les goûts de la terre.
Alors là, vraiment chapeau, la double spirale qui contient tous les goûts de la terre. On n'est pas loin du chewing-gum de Willy Wonka, Florence Casuli, non?
Oui, le chewing-gum avec les trois repas en une seule fois.
Voilà, on a une entrée, une soupe à la tomate, un roast beef et une tarte aux myrtilles dans le même chewing-gum.
Qui dégénère, effectivement, la tarte aux myrtilles qui dégénère, puisque l'expérience n'a pas été jusqu'au bout. J'allais confondre Wonka et Roald Dahl. Wonka teste tout le temps ses sucreries sur ses petits travailleurs, les Oompa Loompa, et du coup, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème avec le dessert. Et effectivement, Violette, qui s'est jetée sur le chewing-gum, en a fait la mauvaise expérience.
Elle est transformée en myrtille géante. Vous venez de confondre Willy Wonka et Roald Dahl. Ça n'est pas pour rien. Florence Casuli, votre thèse à vous, c'est que ce sont une seule et même personne?
Alors, c'est pas que c'est une seule et même personne, c'est plutôt que c'est le dédoublement, on peut dire, de Roald Dahl, Willy Wonka. On en parlait tout à l'heure de la créativité, par exemple. Ma thèse avance l'hypothèse que Wonka, effectivement, peut être vu comme le double de Roald Dahl, puisque c'est un créateur d'illusions aussi, avec tous les bonbons, etc. Et que, du coup, Charlie gagne l'usine à la fin, parce que c'est le seul à avoir réussi à pénétrer l'univers et l'imagination de Wonka. Tous les autres enfants, à chaque fois, remettaient en question ce que disait Wonka, surtout Mike TV, puisqu'il est très terre à terre, etc.
Autre enfant qui visite l'usine.
Exactement. Mmh. Et qui arrête pas de dire, mais ce que vous dites, c'est pas vrai, les enfants, ils sont pas chauves. Enfin, il remet tout le temps en question l'imagination que propose Wonka. Et Charlie, lui, au contraire, il rentre dedans, mais il est aidé aussi grâce à son grand-père. Parce que son grand-père est resté un enfant à cœur. Donc c'est ça aussi qui fait qu'il gagne l'usine à la fin.
Arrêtez-moi si je me trompe, mais Willy Wonka, j'aurais tendance à dire qu'il est à la fois ridicule et terrifiant. C'est pas évident d'être les deux à la fois. Hein.
Et je trouve que d'ailleurs, Johnny Depp rend très bien ce personnage sur cette dualité-là, oui. Effectivement.
Quelle est la vertu de la cruauté dans une histoire pour enfants, Florence Casuli?
C'était de les instruire, tout simplement. C'est la base de la littérature de jeunesse et des contes de fées. C'est de divertir et en même temps instruire, inculquer des leçons aux enfants, tout en les divertissant. Donc la cruauté est en quelque sorte nécessaire pour qu'ils comprennent qu'il y a certains comportements qui prévalent sur d'autres.
Il y a une forme d'ambiguïté quand même chez ce personnage de Willy Wonka, parce qu'il est à la fois tout feu tout flamme, exubérant, excentrique, une imagination débordante, et en même temps il récompense le plus sage d'entre tous ses enfants. Il est très raisonnable.
Oui, et d'ailleurs on le ressent dès le début, parce que du coup on s'attend quand même à un personnage de businessman. Il a une chocolaterie énorme, il gère un empire. Et la première vision qu'on a de lui dans le roman, c'est un personnage qui ne tient pas en place. C'est un enfant surexcité qui accueille d'autres enfants. Donc lui-même a réussi à garder ce regard enfantin sur la chocolaterie. Mais oui, tout le personnage de Willy Wonka est extrêmement ambigu, comme l'était Roald Dahl d'ailleurs.
Le roman a été publié pour la première fois aux États-Unis en 1964, avant la Grande-Bretagne. Oui. Et il est important de souligner qu'il a suscité une polémique importante parce qu'il était jugé raciste, ce livre.
Avec la description des Oompa Loompa, qui était effectivement dans la toute première version de 64, des pygmées africains qui venaient d'une petite île africaine et qui étaient du coup à la peau noire et les cheveux crépus. Il y a une association de personnes noires aux États-Unis qui a dénoncé le racisme sous-jacent, et Roald Dahl s'est excusé parce qu'il comprenait effectivement que ça pouvait heurter, donc il s'est excusé et il a changé le script en 1973.
Il a changé la couleur des personnages.
Oui, ils sont redevenus blancs avec des longs cheveux, etc. Et du coup, Mel Stewart, qui était le réalisateur du premier film en 71, lui aussi a changé les Oompa Loompa, ils sont devenus orange avec des cheveux verts.
Voilà, c'est la preuve d'une grande ouverture d'esprit de l'écrivain britannique.
Oui, alors ça dépend aussi, parce que des fois il refusait de changer le script quand ça plaisait pas. Donc c'est par exemple le cas avec Sacrée Sorcière, quand une société de sorcières lui a écrit pour lui dire
parce que ça existe.
Ça existe. Et il était pas au courant. C'est aussi pour ça qu'il a été un peu pris par surprise, et il a refusé de changer le script en disant, écoutez, je savais même pas que vous existiez,
donc fermez-la.
Voilà. En gros, c'est ça.
Alors, c'est le moment où je vais demander à ceux et celles qui n'ont pas encore lu le livre de se boucher les oreilles, parce qu'on va raconter un peu la fin, mais bon, le roman est sorti en 64, je crois qu'on a le droit de divulgâcher un peu. Tout cela n'était qu'une épreuve, et Charlie Bucket a remporté cette épreuve. Il gagne la chocolaterie, toute sa famille même va gagner le droit de vivre dans la chocolaterie de Wonka. Mais à ce titre-là, la fin du film de Tim Burton est différente du roman de Roald Dahl.
C'était fait pour ça, les tickets d'or.
J'ai invité 5 enfants dans la chocolaterie et je me suis dit, le moins pourri sera le gagnant.
C'est toi, Charlie.
Alors, qu'en dis-tu? Es-tu prêt à quitter tout ça et à venir habiter avec moi à la chocolaterie?
Oui, bien sûr. Mais ma famille vient avec nous.
Oh, mon cher petit, bien sûr que non. On ne dirige pas une chocolaterie avec une famille qui s'accroche à vous comme un vieux crouton à sa canne. Ne le prenez pas mal.
Il n'y a pas de mal, petit con.
Un chocolatier doit être libre comme l'air. Il doit poursuivre ses rêves. Et au diable les conséquences. Regarde, moi, je n'avais pas de famille et je suis la réussite incarnée.
Alors, si je vais avec vous à la chocolaterie, je ne reverrai plus jamais ma famille.
Oui, vois ça comme un bonus.
Alors, je n'y vais pas. Jamais je n'abandonnerai ma famille. Pas pour tout le chocolat du monde.
Ah, je vois. C'est bizarre. Il y a d'autres friandises que le chocolat.
Excusez-moi, monsieur Wonka, mais je reste ici.
Waouh. Eh bien, c'est inattendu et bizarre. Eh bien, alors, dans ce cas, je vais... Au revoir. Tu es sûre que tu ne changeras pas d'avis?
J'en suis sûre.
D'accord. Au revoir.
Et ensuite seulement, c'est Wonka qui va changer d'avis en acceptant toute la famille de Charlie dans la chocolaterie. Cette fin proposée par Tim Burton trahit-elle le roman, à votre avis, Florence Casuli?
Alors, autant je suis d'accord avec Burton sur certains aspects qu'il a accentués, autant la
et
fin...
Et visuellement, c'est absolument
oui,
génial.
Oui, exactement. Mmh. Mais autant la fin, effectivement, plus gâteuse dans le livre que dans le roman. C'est pas du tout dalesque. Lui qui montrait aux enfants que la famille n'était pas... tout le temps quelque chose de d'affectif, etc. Donc oui, c'est peut-être pas une trahison, puisque Willy Wonka, pardon, encore une fois, dit lui-même c'est inattendu et surprenant. Donc effectivement,
pas pour tout le chocolat du monde, voilà. Je n'abandonnerai ma famille. Ça, c'est pas du tout du Roald Dahl. Bah,
c'est pas que c'est pas du tout du Roald Dahl, c'est que parce que Roald Dahl fait quand même des relations familiales. Des bonnes relations familiales, on peut penser notamment au petit garçon dans Sacré Sorcière avec sa grand-mère qui ont une relation fusionnelle. Mais effectivement, Roald Dahl voulait montrer aux enfants que le monde pouvait être cruel et que la famille était aussi... c'était pas forcément un cocon, etc. Ça pouvait être quelque chose de dangereux, notamment aussi avec les tantes dans James et la Peste Géante qui sont extrêmement cruelles. Donc,
c'est un auteur qui prend les enfants au sérieux, Florence Casuli.
Oui, effectivement. Il était d'accord avec ce que disait Bruno Bettelheim. Donc, on ne sait pas s'il a lu Bruno Bettelheim, mais effectivement, quand on lit Roald Dahl, on se rend compte qu'il veut présenter la vie aux enfants telle qu'elle est, sans leur mentir, en leur disant « Bon, écoutez, vous pouvez surmonter les adversités si vous faites un peu preuve d'imagination, si vous êtes un peu plus courageux, etc. » Donc oui, il parle aux enfants comme aux adultes.
Et il a prouvé avec Maestria qu'on peut s'adresser à des enfants sans les prendre pour des andouilles et sans être jamais mièvre. Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl est disponible en livre de poche chez Folio Junior, recommandé à partir de 10 ans.
Oui, 10 ans.
Avec les indispensables illustrations de Quentin Blake.
Oui.
Allez, il est temps, malheureusement, de quitter la chocolaterie Wonka, mais c'est pour entrer dans une librairie et lire d'autres livres. Voici Denis Chessou et ses conseils de littérature jeunesse.
Dorothée Barbaz sur France Inter, la tulle monte loup.
Bonjour à tous, oui, voici l'actualité du livre pour enfants avec « Qui dit la vérité sur le Père Noël » de Géraldine Collet et Stéphane Kiel aux éditions Glénat Jeunesse à partir de 6-7 ans. Le Père Noël est un être mystérieux, surtout quand il apparaît à de nombreux endroits différents. Mais qui peut se vanter de connaître toute la vérité sur lui ?
Moi, dit Nina, il existe, puisque je l'ai vu hier dans un chalet en bois derrière une montagne de chocolat.
Une première affirmation qui tient plutôt la route.
Bah, c'est pas possible, répond Léon, puisqu'il se faisait photographier avec plein de bébés au supermarché.
Ah, Léon a raison, s'il était au supermarché, bah, il pouvait pas être au chalet, impossible.
Vous êtes tous des menteurs, marmonne Fleur. Hier, j'ai vu le Père Noël décoller dans son super hélicoptère, il m'a même dit qu'il partait faire le tour de la Terre.
Voilà qui expliquerait comment il distribue ses cadeaux aussi vite.
C'est plutôt toi la menteuse, réplique Léo. Tout le monde sait que le Père Noël ne voyage qu'en traîneau, tiré par des gros dinos, ajoute Pablo.
Hélico ou dino, ouh, le débat fait rage et l'ambiance alors conviviale tourne au vinaigre.
Ah non, on va pas se disputer, s'exclame Chloé. Nos parents nous ont fait croire que le Père Noël existait, mais peut-être qu'ils ne nous ont pas dit la vérité.
Et s'il n'y avait pas qu'un seul Père Noël, et s'ils étaient plusieurs à distribuer les cadeaux? Bon, ça explique toujours pas pourquoi on ne l'a jamais vu.
C'est évident, dit Adam, parce que la nuit, les Pères Noël deviennent invisibles, comme les petites souris.
Mais oui, elle est là, la vérité, enfin!
Alors que fait-on maintenant, s'interroge Armand. On dit la vérité aux parents ou on continue de faire semblant? Moi, je propose que ce soit le secret des enfants.
La sagesse n'est plus l'apanage des grandes personnes.
Parce que le Père Noël, c'est important pour les parents. Ils y croient tellement.
Alors voilà un album dont on espère que les parents n'ont pas entendu la présentation. Donc c'est plein d'humour, on se pose une question importante, en la désamorçant avec la complicité de tous. Et donc c'est un album qui est surtout réservé à celles et ceux qui savent garder des secrets. Qui dit la vérité sur le Père Noël, Géraldine Collet, Stéphane Kiel aux éditions Glénat Jeunesse à partir de 6 ans. Ah, alors là, une valeur sûre. Un Noël pour le loup de Thierry Dedieu aux éditions Seuil Jeunesse. On va dire que c'est à partir de 4-6 ans.
Quelques jours avant Noël, pendant cette période où tout conflit est interdit, la forêt se remplit d'une intense activité.
Chacun prépare, sans peur de l'autre, ce jour de paix. Alors Mulot fait cuire des pommes d'amour dans un grand chaudron.
On se confectionnait de beaux habits, on décorait son logis.
Alors la forêt est vivante, hein, tout le monde est fiévreux, mais seul le loup est tout triste, solitaire. Il n'a jamais connu les échanges de cadeaux, les repas de famille.
Je vais organiser un grand festin et j'inviterai mes principaux voisins, animaux de la forêt.
Oh, loup, j'ai peur que tu ne sois déçu. Difficile de faire oublier ta réputation, dit le grand-duc. Alors il y va quand même, il prépare un menu personnalisé, sans aucune viande bien sûr, étiquette sur chaque cadeau.
La nouvelle fit le tour de tous les arbres, de tous les terriers.
Noël arriva, couvert, chandeliers et serviettes.
Qui va être le premier à arriver?
Ah, bah personne. Une heure sonne au clocher. 2 heures, toujours, et toujours personne.
Les plats refroidissent, le vin gèle, le soufflet retombe.
Les animaux observent la scène au loin, craignant un piège.
Alors, le loup fit comme si.
Il ouvre le cadeau du lièvre. Ah, un magnifique chapeau avec 2 trous pour les oreilles. Et puis d'un bond, il gagne le bout de la table et il dit...
Lièvre, je suis ravi que ce cadeau te plaise et comblé par un si bon voisinage.
Et ainsi pour tous les cadeaux.
Lunettes de ski pour l'écureuil, pull au vert pour le sanglier, bougies parfumées pour la fouine.
Le loup joue les 2 rôles, celui de l'invité absent et le sien. Et de loin, les animaux sont émus et puis lui disent
« Merci le loup !»
Et puis il danse seul au bout de la nuit. Alors Noël, c'est aussi la nostalgie. Hein. Quand on est seul, par exemple, cet album renvoie donc à cela. L'image est parfaite. Thierry Dedieu, donc très doué, capte les expressions entre les animaux. Et c'est le point de vue du loup très touchant qui nous est donné avec la mise à distance par le cadrage.
Le lendemain, le grand-duc va aux nouvelles. Et toi, loup, que t'ont-ils offert?
Alors il respira un bon coup pour réprimer un sanglot.
Ils m'ont fait cadeau de leur présence, et c'est déjà ça.
Alors jolie fin d'espoir, même si notre loup touchant, reste un loup.
Vivement Noël prochain, que je leur serre la main.
Un Noël pour le loup, Thierry Dedieu aux éditions Seuil Jeunesse, et pour les 4-6 ans et même plus. Allez, merci à Xavier Pestudia pour sa réalisation, à Lucie Cosmala, Eric Oswald, Denis Chessou, nous vous souhaitons de belles lectures.
Merci beaucoup Denis Chessou. On retrouve tous les titres des livres que vous avez cités sur le site de France Inter à la rubrique « L'as-tu lu, mon petit loup ?». L'émission touche à sa fin. Le chocolatier Pierre Marcolini et la spécialiste de Roald Dahl, Florence Casuli, étaient mes invités. Et j'ai à présent une toute dernière question à vous poser, question rituelle dans Barbatruc. Quelle est l'odeur de votre enfance, Pierre Marcolini?
Mais l'odeur de mon enfance, ce sont des notes effectivement de chocolat. Et il y avait du côté de la gare du Midi. Quand on arrivait à Bruxelles, il y avait une usine qui malheureusement était déplacée, que vous connaissez, qui s'appelle Côte d'Or, et il y avait c'était des effluves de cacao, et déjà le tram 103, comme dirait Jacques Brel, on vous amenait déjà jusque-là, et pour moi, ce sont des souvenirs d'enfance qui sont juste extraordinaires, et c'est ce qui a prévalu à le fait que je sois dans le monde du chocolat.
Les effluves de chocolat à Bruxelles en particulier.
Ah, mais les effluves de chocolat à Bruxelles en particulier, c'est juste magique.
Florence Casuli, même question. Quelle est l'odeur de votre enfance?
Moi, ça va être un petit peu moins gourmand, mais c'est une odeur qui ravive quand même beaucoup de souvenirs. C'est tout simplement le parfum de mon grand frère. Bon, je vais peut-être plomber l'ambiance, mais j'ai perdu mon grand frère quand j'étais plus jeune, et du coup, le fait rien que de sentir son odeur me rappelle beaucoup mon enfance.
Et vous le sentez, vous croisez parfois cette
effluve? Exactement, c'est la seule odeur qui me ramène dans le passé.
Le parfum d'un frère et le chocolat à la gare du Midi. Joli cocktail olfactif pour accompagner la bûche de Noël. Merci beaucoup à tous les deux. Florence Casuli, il me reste à vous souhaiter bon courage pour
la fin
de votre thèse sur Roald Dahl. Bonne fin d'année à vous.
Merci.
Pierre Marcolini, période importante dans le secteur du chocolat, dans un contexte difficile évidemment en raison de la crise sanitaire. Très belle fête à vous deux. Merci beaucoup, bonne soirée et à
Merci
bientôt.
Merci à vous, faites attention à vous et je vous souhaite un joyeux Noël à tous.
Merci, au revoir.